20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Nous ferons connaissance ce soir avec la jeune pianiste Noor Ayadi. Elle sera en récital ce dimanche à la Scala Paris, tandis que vient de paraître son nouvel album, au programme aussi étonnant que fascinant. Et puis comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra pour nous emmener en voyage. Nous partirons avec elle à Liège, à l'Opéra Royal de Wallonie. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Le ténor Youssif Evazov vient de lancer son agence de management d'artistes à Vienne, où il réside. L'époux d'Anna Netrebko, qui partage avec elle l'affiche d'Adriana Lecouvreur en ce moment à l'Opéra Bastille, et par ailleurs le directeur de l'Opéra de Bakou. Alors que le chanteur et son épouse sont confrontés depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine à des mises à l'écart par plusieurs institutions dans le monde, la création de cette entité pose plusieurs questions, comme le souligne Philippe Gau dans son article publié sur le site et l'application de Radio Classique. Un duo de choc demain soir à Strasbourg. Joy DiDonato et Michael Spyres retrouveront les musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, qui sera dirigé par John Nelson et Ludovic Morlot, pour chanter Berlioz et Wagner, avec au programme les Wesendonck-Lieder de Wagner, ainsi que des extraits des Troyens et de Roméo et Juliette, mais aussi la cantate Cléopâtre de Berlioz. Deux chanteurs et un orchestre qui nous ont laissé, avec John Nelson, des versions mémorables au disque des Troyens et de la Damnation de Faust. Alors parmi les duos emblématiques de ces ouvrages qu'ils reprendront demain soir, l'ensorcelante Nuit d'ivresse des Troyens. Extrait des Troyens de Berlioz dans l'enregistrement de John Nelson à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg avec la médo-soprano Joy DiDonato et le ténor Michael Spyres. Ils se retrouveront donc demain en concert au Palais de la Musique de Strasbourg pour chanter, entre autres, ce sublime duo.
Laure Maison sur Radio Classique.
Elle figurait en février dernier dans la liste publiée par les Échos des 10 pianistes français incarnant la relève, aux côtés notamment d'Alexandre Kantorov. Noor Ayadi est certes encore moins connue que ce dernier, mais poursuit un remarquable parcours et nous éblouit une nouvelle fois au disque avec un album aussi original que saisissant, associant Poulenc et Schumann, un album publié par le label Scala Music et un programme qu'elle donnera en récital à la Scala Paris. Justement, ce sera ce dimanche, le 28 janvier. Bonsoir, Noor Ayadi.
Bonsoir, Laure.
Votre premier album, il associait déjà Schumann à un compositeur auquel on ne le rapprochait pas forcément, c'est Stravinsky. Ici, Schumann, il côtoie Francis Poulenc, ce qui est assez étonnant sur le papier, mais complètement convaincant, on va l'évoquer à l'écoute. Schumann, c'est un peu le pilier de votre répertoire autour duquel vous gravitez, à partir duquel vous avez envie d'emprunter des chemins. Est-ce qu'on peut le définir comme ça ?
C'est vrai que Schumann est un compositeur qui m'a énormément accompagnée dans mon parcours musical, artistique. J'ai signé un premier CD avec les études symphoniques et je trouve que dans cette pièce, on trouve pratiquement tout de ce qui est de la complexité technique ou musicale. C'est vrai que c'est un peu mon compositeur de cœur et c'était pour moi une évidence de continuer mon parcours avec Schumann.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'associer Schumann, l'univers de Schumann, à celui de Poulenc? D'un côté, la musique romantique allemande, un piano très différent d'ailleurs de Poulenc, de cette musique française du XXe siècle.
C'est vrai que ce sont deux compositeurs que tout pourrait éloigner. En faisant mes recherches, en travaillant sur ces deux pièces qui forment un petit peu le centre de ce disque, Les Soirées de Nazelle et Le Carnaval de Vienne, en fait, elles sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Et pour moi, c'était tout à fait naturel de les mettre en miroir. Parce que tout d'abord, Poulenc a été beaucoup inspiré par la musique de Schumann. Depuis qu'il est tout jeune, il écoute sa maman qui jouait au piano des mélodies de Schumann. Et en fait, je découvre avec ces soirées de Nazelle qu'il a voulu appeler cette pièce Carnaval au départ, en hommage même au Carnaval de Vienne de Schumann. Mais en fait, il y a quelque chose dans le procédé compositionnel des deux compositeurs qui est extrêmement étroit, qui est extrêmement lié. Et il y a aussi un aspect que je voulais mettre en avant, c'est que ce sont deux compositeurs qui vont exceller par la forme de miniature. C'est la miniature qui va leur permettre, en fait, de trouver cette liberté de composition et de faire cette grande œuvre architecturale.
Votre premier album, Nour Ayadi, s'ouvre avec ce cycle des Soirées de Nazelle de Francis Poulenc, dont on écoute quelques extraits, un Poulenc plein de fantaisie, de désinvolture, mais aussi de mélancolie. Un Poulenc très humain, on a l'impression, quand on écoute cette musique. C'est une musique très humaine.
Une musique extrêmement humaine, et justement, vous pointez du doigt un aspect aussi qui va rapprocher ces deux compositeurs. Les Soirées de Nazelle sont en fait des portraits de personnages, de personnes que Poulenc a rencontrées à Nazelle lors de soirées amicales. Il voulait s'amuser, donc il prend des thèmes, il en fait des variations. Et donc, cette fascination pour le personnage, pour le trait de caractère, on le retrouve aussi chez Schumann, si on se souvient bien sûr des Eusebius et Florestan, donc l'un qui est mélancolique, comme vous dites, et l'autre vaillant. On a cette fascination pour cette humanité, en fait, et cette variété d'émotions.
Cette bipolarité aussi entre Schumann, Eusebius et Florestan, et Poulenc, le moine et le voyou, c'est un peu la même façon.
Une bipolarité qu'on va retrouver à la fois dans leur vie personnelle, à la fois dans leur œuvre. Avec ces soirées de Nazel, on a donc une évocation, il va pas nommer les personnes, il va être beaucoup plus subtil que ça, il va utiliser des titres très drôles, le goût du malheur, la désinvolture et la discrétion, des évocations comme celle-ci qui pour moi se joignent parfaitement à ce que Schumann aussi a voulu montrer dans sa musique. Dans le Carnaval de Vienne, il ne l'indique pas, mais il aurait pu très bien mettre Florestan, Eusebius au-dessus de chaque pièce.
Et on les devine, hein, quelque part.
On les devine, exactement.
Donc finalement, les soirées de Nazel, c'est un cycle schumannien qui permet à Poulenc de mettre en avant son art de la miniature, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Nour Ayadi. C'est ce qui vous touche, entre autres, chez ces compositeurs. Et puis, il y a aussi ce thème du carnaval. Le carnaval, c'est un moment de lâcher prise. C'est un moment de folie aussi. C'est quelque chose de très exaltant que d'exprimer le carnaval en musique.
J'avais vraiment envie, pour ce deuxième disque, d'aller dans des tonalités de lumière, des tonalités de joie et de fête. Et pour moi, c'était vraiment le point de départ de ce projet-là. Pour moi, le Carnaval de Vienne correspondait parfaitement, voilà, à cet univers un peu de danse et de folie. Et ça revient aussi à un point que je voulais évoquer sur ces deux compositeurs. Je me souviens avoir lu que Poulenc disait « mon canon ». Comme la forme artistique musicale, c'est mon instinct. Et ce sont deux compositeurs qui vont aussi travailler et s'exprimer avec l'instinct, avec un élan musical. Il y a quelque chose d'imprévisible souvent, et ça, c'est aussi un défi pour l'interprète de pouvoir surprendre l'auditoire. Mais pour pouvoir faire ça, il faut que nous-mêmes, on soit surpris d'une certaine façon pour pouvoir transmettre un peu ces changements brusques, cette bipolarité, ces changements de scène. C'est ce qu'on voit aussi dans le Carnaval de Vienne, ce sont en fait des scènes. Il y a des changements de décor, des levées de rideaux, voilà, comme un peu une scène de théâtre ou un changement d'acte dans une pièce.
Mais avec en même temps des écritures très différentes. Schumann, on perçoit ici même une dimension presque orchestrale, des accents plus dramatiques, alors que chez Poulenc, on est plus dans quelque chose d'aérien, en tout cas plus léger.
C'est vrai qu'on parle souvent de musique légère lorsqu'on évoque Poulenc.
Légère avec de la mélancolie, de la tendresse. Hein.
Tout
c'est
à
pas
fait.
Du tout péjoratif. Hein.
Bien sûr, c'est pour moi d'ailleurs cette identité musicale chez Poulenc, c'est celle qui me touche énormément. Ce que j'ai pu découvrir en plus de ça, c'est sa partition, en fait, sa musique est beaucoup plus subtile que ce qu'on peut penser au départ, une musique voilà, légère qui va évoquer des thèmes par-ci, par-là. En fait, l'écriture est beaucoup plus détaillée, les accents sont nombreux et pour moi, c'était un vrai travail de laboratoire, en fait, de chercher des palettes de couleurs, d'avoir cette imagination qui va s'ouvrir et bien sûr, en parallèle avec la musique de Schumann qui évoque aussi une musique très symphonique, très orchestrale. Et c'est aussi un défi pour le musicien, le pianiste, de trouver aussi cette couleur variée dans un instrument à cordes frappées.
Vous aimez le Schumann Orchestra, parce que les études symphoniques aussi, c'est une œuvre très orchestrale,
oui,
de Schumann.
Exactement, je me prête au jeu et c'est vrai que c'est très amusant.
Thank you.
Un extrait du Carnaval de Vienne de Robert Schumann par Nour Ayadi, qui est notre invitée ce soir sur Radio Classique. C'est votre deuxième album. Alors, on vous connaît depuis déjà quelques petites années, depuis que vous avez remporté en 2019 le prix Cortot de l'École Normale de Musique. Vous êtes née à Casablanca. C'est à Casablanca que vous avez commencé vos études de piano?
Tout à fait. J'ai grandi à Casablanca et j'ai étudié jusqu'à mes 17 ans dans une école qui s'appelle l'École de Musique Salmon. Donc, c'était ma première professeur, Madame Salmon, qui m'a fait découvrir la musique classique et qui m'a formée jusqu'à arriver à Paris lorsque j'ai été admise au Conservatoire National.
Mais la musique classique, elle faisait partie de votre vie? Vous l'avez vraiment découvert en apprenant le piano?
Elle a toujours été présente depuis que je suis née. J'ai une grande sœur qui faisait du piano, qui en fait toujours un petit peu à ses heures perdues. Et c'est grâce à elle que j'ai commencé. Et voilà, j'ai été beaucoup guidée par ma grande sœur.
Et ensuite, d'autres guides que vous croisez à l'École Normale de Musique, au Conservatoire National de Paris, notamment Claire Désert. Est-ce que c'est Claire Désert qui vous a transmis cet amour pour Schumann? Parce que c'est une immense schumannienne, Claire Désert.
C'est vrai que j'aime énormément ses interprétations de ce répertoire-là. Elle m'a beaucoup aidé dans la compréhension de ce langage. C'est vrai que Schumann m'a accompagnée depuis que je suis toute petite, vu que voilà, il a énormément travaillé avec les miniatures. Ce sont des pièces assez abordables pour commencer.
Ouais, mais en même temps, c'est un langage complexe. Schumann, beaucoup plus complexe, en tout cas du premier abord, que Chopin.
Un langage très très complexe. Ouais. C'est vrai que je me souviens avoir commencé par des pièces des scènes de la forêt que je ne jouerai absolument pas de la même façon aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis que je suis toute jeune, je côtoie en fait ce langage-là et mon cursus au conservatoire m'a permis d'enrichir cette compréhension de cet univers, oui.
Et puis vous étudiez la musique, Nour Ayadi, mais vous étudiez également, en tout cas vous avez étudié également les sciences politiques, d'où votre aisance au micro, puisque quand vous êtes arrivée à Paris, vous êtes entrée à l'École Normale de Musique, en conservatoire, mais aussi à Sciences Po.
Tout à fait, c'était pratiquement en parallèle. J'ai fini mon baccalauréat et j'ai passé le concours d'entrée à Sciences Po. Et donc, j'ai réussi le concours d'entrée. Depuis, j'ai fait ma licence et un master en politique publique culturelle.
Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire Sciences Po?
Pour moi, c'était très naturel. Il s'agissait absolument pas de ne pas poursuivre mes études après le baccalauréat en venant du Maroc et en ayant fini ici à Paris. Et j'avais besoin, ou en tout cas, j'ai toujours eu besoin de cette ouverture d'esprit, de comprendre un petit peu les complexités de notre société. Et j'avais envie d'être musicienne, bien sûr, mais d'être une musicienne éveillée. Puis le master en politique publique culturelle a été vraiment utile parce que j'ai vraiment pu comprendre les complexités, les exigences de toutes les institutions culturelles et pas seulement porter la casquette de l'interprète, mais de mieux appréhender les acteurs des institutions culturelles.
Et vous continuez vous avez toujours des relations avec Sciences Po, vous menez des projets musicaux avec l'école?
Je suis en étroite collaboration avec eux parce que depuis donc j'ai eu mon master, ils ont envie de créer ce cursus pour artistes de haut niveau en s'étant inspiré de mon parcours.
Est-ce qu'il y a donc d'autres gros artistes de haut niveau à Sciences Po?
Il y a des gens qui ont été inspirés par ce cursus que j'ai fait en se disant en fait c'est pas impossible. Ouais. Et donc ils ont vu qu'il y a des musiciens, il y a des artistes qui veulent poursuivre aussi ce parcours double. Et donc, je suis en communication avec eux pour essayer de mettre en place ce cursus et pour connaître au mieux les attentes et aussi les exigences de tous les acteurs de ce projet-là.
Et actuellement, vous poursuivez, Nour Ayadi, vos études à la chapelle musicale Reine-Élisabeth, aux côtés, entre autres, de Louis Lorty. Qu'est-ce qu'elle représente, la chapelle musicale Reine-Élisabeth, pour un artiste comme vous qui a quasiment terminé ses études, qui est entre un pied dans la vie professionnelle, un pied dans les études? C'est une période de transition pour se perfectionner, pour...
Oui, c'est vrai que c'est un vrai tremplin pour ce moment un petit peu crucial dans le début de carrière d'un musicien. On a des coachings, notamment avec Franck Bralet, Avedis Kouyoumdjian. On a aussi beaucoup d'opportunités de concerts qui permettent un peu de mettre le pied sur scène avec des grands artistes. Ça me permet aussi d'avoir des conditions de travail exceptionnelles. On est au milieu de la forêt, j'ai mon studio avec un piano à queue, je peux travailler jusqu'à 2h du matin si je veux, je peux commencer à 6h du matin. Et donc, lorsque j'ai besoin un peu d'être dans ma bulle de travail pour découvrir des choses, notamment la préparation de ce disque, je l'ai principalement faite à Waterloo en Belgique, oui.
Voilà, donc la chapelle Reine-Élisabeth, vous citiez Franck Bralet, Louis Lorty, Nelson Gurner aussi a joué un rôle important, vous êtes passé aussi par la Fondation Gauthier-Capuçon.
Oui, tout à fait.
Et du coup, cette année 2024, qu'est-ce qu'elle vous apportera comme perspective? Déjà, elle a bien commencé sur, en termes de concerts, Noura Yadi.
Oui, c'est vrai que ce mois de janvier a été assez chargé. J'ai eu l'occasion de jouer aux rencontres musicales de Bel Air. Le concert de sortie du disque arrivera bientôt.
Ce sera ce dimanche à la Scala Paris.
Tout à fait. Et puis, de beaux projets que j'ai eu l'occasion de faire avec Bertrand Chamaillou autour d'un programme Ravel et le quatuor Eben autour du quintet de Schumann. Et pour les prochaines dates, donc il y aura un projet d'enregistrement de la musique de Fauré dans lequel j'aurai l'occasion de jouer le deuxième quatuor de Fauré à la chapelle musicale Reine-Élisabeth, et l'émission le 29 février des Victoires de la musique dans lequel je participerai en tant que révélation des Victoires.
Folle journée aussi en perspective.
Les folles journées, très bien, merci. Le 3 et 4 février, je jouerai une partie du programme du disque et du rameau.
Et donc ce dimanche à la Scala Paris, c'est le programme de ce disque avec les soirées de Nazelle, Carnaval de Vienne et des novelettes, puisqu'on ne l'a pas évoqué, mais il y a aussi des novelettes, un genre qui réunit Schumann et Poulenc. Qu'est-ce que c'est la novelette, Noura Yadi?
C'est vrai que c'est un terme qui est assez curieux, qui peut être aussi ambigu parce qu'il a des significations différentes en fonction du compositeur. C'est vrai que pour Schumann, la novelette, en plus de son terme littéraire nouvelle, faisait référence à cette pianiste Clara Novello qu'il admirait beaucoup, mais pour moi c'est aussi une référence cachée à Clara Wieck, parce que à ce moment-là, lorsqu'il écrit les novelettes, sa situation avec Clara n'était pas du tout favorable. Le père autoritaire de Clara s'opposait complètement à cette union-là. Pour Poulenc, je pense que la novelette correspond vraiment aussi à ce terme de nouvelle, donc à cette pièce courte, plus que quelque chose de narratif, mais une suggestion poétique.
On va se quitter justement avec l'une de ces novelettes qui figure au programme de ce bel album, votre album Carnaval, Noura Yadi, qui vient de paraître sous le label Scala Music. Merci beaucoup, Noura Yadi.
Merci, Laure.
Une novelette de Francis Poulenc, un nouvel extrait de l'album Carnaval de Noura Yadi. Noura Yadi qui sera donc en récital avec le programme de son album ce dimanche à 16h à la Scala Paris.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Direction Liège avec vous cette semaine.
Exactement, pour parler de Roussalka de Dvorak. Alors, inspirée de la fascination ancestrale pour les créatures des eaux et mise à la mode tout particulièrement au 19e siècle par le conte de Lamotte Fouquet intitulé Londine, donc cet opéra Roussalka est l'histoire d'une jeune nymphe qui se perd et perd son amant par amour. Pour pouvoir vivre avec le beau prince qui a ravi son cœur, elle désire devenir une femme de chair et de sang et une sorcière. La terrible Jezibaba exauce son vœu, mais la contrepartie est assez cruelle, sévère. Roussalka ne pourra pas parler. Se détachant de sa bien-aimée muette, séduit par une princesse beaucoup plus pétulante venue de l'étranger, le prince la délaisse et Roussalka est désespérée, on l'imagine, et elle finit par entraîner au fond des eaux celui qu'elle aime et qui se repentit, mais trop tard. Donc le conte est bien triste. C'est une histoire donc bien triste, mais bien belle, sur l'insatisfaction et la difficulté à sortir de son milieu et de la vie qui semble avoir été tracée pour vous, mais qui ne vous convient pas forcément. Alors Dvorak en a tiré un opéra magnifique, extrêmement émouvant, intense, sur un livret de Jaroslav Kvapil, et la création a eu lieu en 1901 et ce fut tout de suite un triomphe. Et depuis, à chaque fois que l'opéra est repris, je crois que le public, qu'il connaisse ou non Roussalka, est toujours extrêmement touché et emporté. Le public, à l'époque, il a senti combien le compositeur avait insufflé dans sa partition l'ambiance poétique et bucolique de la campagne où il avait passé l'été lors de la composition de son opéra. On connaît notamment, on va se séparer dans quelques minutes avec elle, la merveilleuse invocation que Roussalka adresse à la lune, mais il y a beaucoup d'autres passages où ce sentiment de l'air, des eaux, de la lumière ou des ténèbres imprègne mélodie et texture sonore.
Alors Emmanuel, l'Opéra Royal de Wallonie à Liège en propose une nouvelle production. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Eh bien, je crois que oui. C'est une très bonne occasion, cette Roussalka, de prendre le chemin de ce théâtre de Wallonie si accueillant, aussi bien les lieux que les personnes qui s'en occupent, dans une ville qui mérite amplement la découverte. Le mélomane se souviendra notamment que Liège a vu naître les compositeurs Grétry et César Franck, qui y sont bien honorés. Alors Roussalka est donnée à compter de ce soir 25 janvier pour une série de représentations sous la direction musicale de Giampaolo Bisanti et dans une mise en scène de Rodula Gaetanou. Mais je vous avoue que ce qui m'a surtout incité à proposer à nos auditeurs cette petite chronique, c'est la chanteuse du rôle-titre, Corinne Winters, donc qui endosse ce rôle de Roussalka. C'est une musicienne et une comédienne d'une élégance et d'une intensité rare, dotée d'une voix à la fois très fraîche et extrêmement vaillante. Elle aurait la voix d'une mozartienne et le volume d'une wagnerienne. Et c'est toujours très, très, très fascinant de voir ce duo de qualité rarement réuni en une même personne. Et donc, elle peut aborder comme ça des personnages dramatiques sans mettre en danger cette fraîcheur et ce timbre si lumineux. Elle est née aux États-Unis, elle a été formée à Baltimore et maintenant elle se produit partout dans le monde. Elle a été par exemple une bouleversante Katia Kabanova de Janáček au Festival de Salzbourg, puis à Genève et à Lyon. Elle gagne l'admiration du public d'abord par sa beauté, c'est une très très bonne comédienne, elle est totalement crédible dans tous les rôles, son engagement scénique et puis ce chant solaire. Vous comprenez, j'ai un vrai coup de cœur pour la voix de Corinne Winters. Elle se sent chez elle en Belgique parce qu'elle y chante très régulièrement. Donc Liège, les spectateurs de Liège vont être très contents de l'entendre et de se glisser dans le cœur si tendre et le destin si fragile de la nymphe Roussalka. Et donc ils ont bien de la chance et il suffit nous de rejoindre Liège pour aller l'écouter. Et on se quitte avec une autre magicienne du chant, Lucia Pop. Yeah.
L'air à la lune de Rusalka d'Antonín Dvořák, chanté ici par Lucia Pop. Rusalka à l'affiche de l'Opéra Royal de Liège dès ce soir jusqu'au 4 février. Liège où vous nous avez emmené cette semaine. Emmanuel, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Laure.
Et à la semaine prochaine, merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de l'altiste Léa Enino et la violoncelliste Héloïse Luzzati pour parler de la musique de Jeanne Leleu, une compositrice qu'elles nous font découvrir au disque. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.